François le Champy, chapitre 25. Depuis ce moment-là, le Champy fut si triste que c'était pitié de le voir. Il travaillait comme quatre, mais il n'avait plus ni joie ni repos, et Madeleine ne pouvait pas lui faire dire ce qu'il avait. Il avait beau jurer qu'il n'avait amitié ni regret pour Mariette, Madeleine ne le pouvait croire et ne trouvait nulle autre raison à sa peine. Elle s'affligeait de le voir souffrir et de n'avoir plus sa confiance, et c'était un grand étonnement pour elle que de trouver ce jeune homme si obstiné et si fier dans son dépit. Comme elle n'était point tourmentante dans son naturel, elle prit son parti de ne plus lui en parler. Elle essaya encore un peu de faire revenir Mariette, mais elle en fut si mal reçue qu'elle en perdit courage et se tint coi, bien angoissée de cœur, mais ne voulant en rien faire paraître, crainte d'augmenter le mal d'autrui. François la servait et l'assistait toujours avec le même courage et la même honnêteté que devant, comme au temps passé. Il lui tenait compagnie le plus qu'il pouvait, mais il ne lui parlait plus de la même manière. Il était toujours dans une confusion auprès d'elle. Il devenait rouge comme feu et blanc comme neige dans la même minute, si bien qu'elle le croyait malade et lui prenait le poignet pour voir s'il n'avait pas la fièvre. Mais il se retirait d'elle comme si elle lui avait fait mal en le touchant, et quelquefois il lui disait des paroles de reproche qu'elle ne comprenait pas. Et tous les jours cette peine augmentait entre eux. Pendant ce temps-là, le mariage de Mariette avec Jean Aubard allait grand train, et le jour en fut fixé pour celui qui finissait le deuil de Mademoiselle Blanchet. Madeleine avait peur de ce jour-là. Elle pensait que François en deviendrait fou et elle voulait l'envoyer passer un peu de temps à Aigurande chez son ancien maître Jean Vertot pour se dissiper. Mais François ne voulait point que la Mariette pût croire ce que Madeleine s'obstinait à penser. Il ne montrait nul ennui devant elle, il parlait de bonne amitié avec son prétendu et quand il rencontrait la Sévère par les chemins, il plaisantait en parole avec elle pour lui montrer qu'il ne la craignait pas. Le jour du mariage, il voulut y assister, et comme il était de bon content de voir cette petite fille quitter la maison et débarrasser Madeleine de sa mauvaise amitié, il ne vint à l'idée de personne qu'il s'en fût jamais coiffé. Madeleine mêmement commença à croire la vérité là-dessus, ou à penser tout au moins qu'il était consolé. Elle reçut les adieux de Mariette avec son bon cœur accoutumé. Mais comme cette jeunesse avait gardé une pique contre elle à cause du Champy, elle vit bien qu'elle en était quittée sans regret ni bonté. Coutumière de chagrin qu'elle était, la bonne Madeleine pleura de sa méchanceté et pria le bon Dieu pour elle. Et quand ce fut au bout d'une huitaine, François lui dit d'un coup qu'il avait affaire à Aigurande et qu'il s'en allait y passer 5 ou 6 jours, de quoi elle ne s'étonna point et se réjouit même, pensant que ce changement ferait du bien à sa santé, car elle le jugeait malade pour avoir trop étouffé sa peine. Tant qu'à François, cette peine dont il paraissait revenu lui augmentait tous les jours dans le cœur. Il ne pouvait penser à autre chose, et qu'il dormît ou qu'il veillât, qu'il fût loin ou près, Madeleine était toujours dans son sang et devant ses yeux. Il est vrai que toute sa vie s'était passée à l'aimer et à songer d'elle. Mais jusqu'à ces temps derniers, ce pansement avait été son plaisir et sa consolation, au lieu que c'était devenu d'un coup tout malheur et tout désarroi. Tant qu'il s'était contenté d'être son fils et son ami, il n'avait rien souhaité de mieux sur la terre. Mais l'amour changeant son idée, il était malheureux comme une pierre. Il s'imaginait qu'elle ne pourrait jamais changer comme lui. Il se reprochait d'être trop jeune, d'avoir été connu, trop malheureux et trop enfant, d'avoir donné trop de peine et d'ennui à cette pauvre femme, de ne lui être point un sujet de fierté mais de souci et de compassion. Enfin, elle était si belle et si aimable dans son idée, si au-dessus de lui et si à désirer, que quand elle disait qu'elle était hors d'âge et de beauté, il pensait qu'elle se posait comme cela pour l'empêcher de prétendre à elle. Cependant, la Sévère et la Mariette, avec leur clique, commençaient à la déchirer hautement à cause de lui, et il avait grand peur que le scandale lui en revenant aux oreilles, elle n'en prît de l'ennui et souhaita le voir partir. Il se disait qu'elle avait trop de bonté pour le lui demander, mais qu'elle souffrirait encore pour lui, comme elle en avait déjà souffert, et il pensa à aller demander conseil sur tout cela à monsieur le curé des Gurandes qu'il avait reconnu pour un homme juste et craignant Dieu. Il y alla mais ne le trouva point. Il s'était absenté pour aller voir son évêque et François s'en revint coucher au moulin de Jean Vertot, acceptant d'y passer 2 ou 3 jours à leur faire visite en attendant que monsieur le curé fût de retour. Il trouva son brave maître toujours aussi galant homme et bon ami qu'il l'avait laissé, et il trouva aussi son honnête fille Jeannette en train de se marier avec un bon sujet qu'elle prenait un peu plus par raison que par folleté, mais pour qui elle avait heureusement plus d'estime que de répugnance. Cela mit François plus à l'aise avec elle qu'il n'avait encore été, et comme le lendemain était un dimanche, il causa plus longuement avec elle et lui marqua la confiance de lui raconter toutes les peines dont il avait eu le contentement de sauver Madame Blanchet. Et de fil en aiguille, Jeannette, qui était assez clairvoyante, devina bien que cette amitié-là secouait le Champly plus fort qu'il ne le disait. Et tout d'un coup, elle lui prit le bras et lui dit « François, vous ne devez plus rien me cacher. À présent, je suis raisonnable et vous voyez, je n'ai pas honte de vous dire que j'ai pensé à vous plus que vous n'avez pensé à moi. Vous le savez et vous n'y avez pas répondu. Mais vous ne m'avez pas voulu tromper et l'intérêt ne vous a pas fait faire ce que bien d'autres eussent fait en votre place. Pour cette conduite-là et pour la fidélité que vous avez gardée à une femme que vous aimez mieux que tout, je vous estime et au lieu de renier ce que j'ai senti pour vous, je suis contente de m'en ressouvenir. Je compte que vous me considériez d'autant mieux que je vous le dis, et que vous me rendrez cette justice de reconnaître que je n'ai eu dépit ni rancune de votre sagesse. Je veux vous en donner une plus grande marque, et voilà comme je l'entends. Vous aimez Madeleine Blanchet, non pas tout bonnement comme une mère, mais bien bellement comme une femme qui a de la jeunesse, de l'allègrement, et dont vous souhaiteriez d'être le mari. Dit François rougissant comme une fille. Je l'aime comme ma mère et j'ai du respect plein le cœur. Je n'en fais pas doute, reprit Jeannette, mais vous l'aimez de 2 manières, car votre figure me dit l'une, tandis que votre parole me dit l'autre. Eh bien, François, vous n'osez lui dire à elle ce que vous n'osez non plus me confesser, et vous ne savez point si elle peut répondre à vos 2 manières de l'aimer. Jeannette Vertot parlait avec tant de douceur, de raison, et se tenait devant François d'un air d'amitié si véritable, qu'il n'eut point le courage de mentir, et lui serrant la main, il lui dit qu'il la considérait comme sa sœur, et qu'elle était la seule personne au monde à qui il avait le courage de donner ouverture à son secret. Jeannette alors lui fit plusieurs questions, et il y répondit en toute vérité et assurance. Et elle lui dit « Mon ami François, me voilà au fait. Je ne peux pas savoir ce qu'en pensera Madeleine Blanchet, mais je vois fort bien que vous resteriez 10 ans auprès d'elle sans avoir la hardiesse de lui dire votre peine. Eh bien, je le saurai pour vous, et je vous le dirai. Nous partirons demain, mon père, vous et moi, et nous irons comme pour faire connaissance et visite d'amitié à l'honnête personne qui a élevé notre ami François. Vous promènerez avec mon père dans la propriété, comme pour lui demander conseil, et je causerai durant ce temps-là avec Madeleine. J'irai bien doucement, et je ne dirai votre idée que quand je serai en confiance sur la sienne. » François se mit quasiment à genoux devant Jeannette pour la remercier de son bon cœur, et l'accord en fut fait avec Jean Vertot que sa fille instruisit du tout avec la permission de Champy. Ils se mirent en route le lendemain, Jeannette en croupe derrière son père, et François alla 1 heure en avant pour prévenir Madeleine de la visite qui lui arrivait. Ce fut à soleil couchant que François revint au Cormoir. Il attrapa en route toute la pluie d'un orage. Mais il ne s'en plaignit pas, car il avait bon espoir dans l'amitié de Jeannette, et son cœur était plus aise qu'au départ. La nuée s'égouttait sur les buissons, et les merles chantaient comme des fous pour une risée que le soleil leur envoyait avant de se cacher derrière la côte du Grand Corlet. Les oisillons, par grandes bandes, voletaient devant François de branche en branche, et le piolis qui faisait lui réjouissait l'esprit. Il pensait au temps où il était tout petit enfant et où il s'en allait rêvant, baguenaudant par les prés et sifflant pour attirer les oiseaux. Et là-dessus, il vit une belle pive que dans d'autres endroits on appelle bouvreuil et qui frétillait alentour de sa tête comme pour lui annoncer bonne chance et bonne nouvelle. Et cela le fit ressouvenir d'une chanson bien ancienne que lui disait sa mère Zabel pour l'endormir, dans le parlage du vieux temps de notre temps. Une pive cortive, anxépivio, Cortivio, Livardio, s'en va pivant, livardillant, cortiviant. Madeleine ne l'attendait pas sitôt à revenir. Elle avait même eu crainte qu'il ne revienne plus du tout, et en le voyant, elle ne put se retenir de courir à lui et de l'embrasser, ce qui fit tant rougir le champi qu'elle s'en étonna. Il l'avertit de la visite qui venait, et pour qu'elle n'en prît pas d'ombrage, car on eût dit qu'il avait autant de peur de se faire deviner qu'il avait de chagrin de ne l'être point, il lui fit entendre que Jean Vertot avait quelque idée d'acheter du bien dans le pays. Alors Madeleine se mit en besogne de tout préparer pour fêter de son mieux les amis de François. Jeannette entra la première dans la maison, pendant que son père mettait leur cheval à l'étable. Et dès le moment qu'elle vit Madeleine, elle l'aima de grande amitié, ce qui fut réciproque. Et commençant par une poignée de main, elles se mirent quasi tout aussitôt à s'embrasser comme pour l'amour de François et à se parler sans embarras, comme si de longtemps elles se connaissaient. La vérité est que c'était deux bons naturels de femmes et que la paire valait gros. Jeannette ne se défendait point d'un reste de chagrin en voyant Madeleine tant chérie de l'homme qu'elle aimait peut-être encore un brin, mais il ne lui en venait point de jalousie et elle voulait s'en reconsoler par la bonne action qu'elle faisait. De son côté, Madeleine, voyant cette fille bien faite et de figure avenante, s'imagina que c'était pour elle que François avait eu de l'amour et du regret, qu'elle lui était accordée et qu'elle venait lui en faire part elle-même. Et pour son compte, elle n'en prit point de jalousie non plus, car elle n'avait jamais songé à François que comme à l'enfant qu'elle aurait mis au monde. Mais dès le soir, après souper, pendant que le père Vertot, un peu fatigué de la route, allait se mettre au lit, Jeannette emmena Madeleine dehors, faisant entendre à François de se tenir un peu d'éloignement avec Jeannie, de manière à venir, quand il la verrait de loin, rabattre son tablier qui était relevé sur le côté. Et alors elle fit sa commission en conscience, et si adroitement que Madeleine n'eut pas le loisir de se récrier. Et si elle fut beaucoup étonnée à mesure que la chose s'expliquait. D'abord elle crut voir que c'était encore une marque du bon cœur de François, qui voulait empêcher les mauvais propos et se rendre utile à elle pour toute sa vie. Et elle voulait refuser, pensant que c'était trop de religion pour un si jeune homme de vouloir épouser une femme plus âgée que lui, qu'il s'en repentirait plus tard et ne pourrait lui garder longtemps sa fidélité sans avoir de l'ennui et du regret. Mais Jeannette lui fit connaître que le champi était amoureux d'elle si fort et si rude qu'il en perdait le repos et la santé. Ce que Madeleine ne pouvait imaginer, car elle avait vécu en si grande sagesse et retenue, ne se faisant jamais belle, ne se montrant point hors de son logis et n'écoutant aucun compliment qu'elle n'avait plus d'idée de ce qu'elle pouvait paraître aux yeux d'un homme. « Et enfin, lui dit Jeannette, puisqu'il vous trouve tant à son gré et qu'il mourra de chagrin si vous le refusez, voulez-vous vous obstiner à ne point voir et à ne point croire ce qu'on vous dit? Si vous le faites, c'est que ce pauvre enfant vous déplaît et que vous seriez fâché de le rendre heureux. Ne dites point cela, Jeannette, répondit Madeleine. Je l'aime presque autant, si ce n'est autant que mon Jeannie, et si j'avais deviné qu'il m'eût dans son idée d'une autre manière, il eut bien à croire que je n'aurais pas été aussi tranquille dans mon amitié. Mais que voulez-vous? Je ne m'imaginais rien comme cela, et j'en suis encore si étourdie dans mes esprits que je ne sais comment vous répondre. Je vous en prie de me donner le temps d'y penser et d'en parler avec lui pour que je puisse connaître si ce n'est point une rêvasserie ou un dépit d'autre chose qui le pousse, ou encore un devoir qu'il veut me rendre. Car j'ai peur de cela surtout, et je trouve qu'il m'a bien assez récompensé du soin que j'ai pris de lui, et que me donner sa liberté et sa personne encore, ce serait trop, à moins qu'il ne m'aime comme vous croyez. » Jeannette, entendant cela, rabattit son tablier, et François, qui ne se tenait pas loin et qui avait les yeux sur elle, vint à leur côté. Jeannette adroitement demanda à Jeannie de lui montrer la fontaine et ils s'en allèrent, laissant ensemble Madeleine et François. Mais Madeleine, qui s'était imaginée pouvoir questionner tout tranquillement le champi, se trouva du coup interdite et honteuse comme une fille de 15 ans. Car ce n'est pas l'âge, c'est l'innocence de l'esprit et de la conduite qui fait cette honte-là si agréable et si honnête à voir. Et François, voyant sa chère mère devenir rouge comme lui et trembler comme lui, devina que cela valait encore mieux pour lui que son air tranquille de tous les jours. Il lui prit la main et le bras, et il ne put lui rien dire du tout. Mais comme tout en tremblant, elle voulait aller du côté où étaient Jeannie et Jeannette, il la retint comme de force et la fit retourner avec lui. Et Madeleine, sentant comme sa volonté le rendait hardi de résister à la sienne, comprit mieux que par des paroles que ce n'était plus son enfant, le champi, mais son amoureux François qui se promenait à son côté. Et quand ils eurent marché un peu de temps sans se parler, mais en se tenant par le bras, aussi serré que la vigne à la vigne, François lui dit « Allons à la fontaine, peut-être y trouverai-je ma langue ?» Et à la fontaine, ils ne trouvèrent plus ni Jeannette ni Jeannie qui étaient rentrées. Mais François retrouva le courage de parler en se souvenant que c'était là qu'il avait vu Madeleine pour la première fois. Et là aussi qu'il lui avait fait ses adieux 11 ans plus tard. Il faut croire qu'il parla très bien et que Madeleine n'y trouva rien à répondre car ils étaient encore à minuit et elle pleurait de joie. Et il la remercia de genoux de ce qu'elle l'acceptait pour son mari. Là finit l'histoire, dit le chanvreur. Car des noces, j'en aurais trop long à vous dire. J'y étais, et le même jour que le champi épousa Madeleine à la paroisse de Mers, Jeannette se mariait aussi à la paroisse des Gurandes. Et Jean Vertot voulut que François et sa femme, et Jeannie, qui étaient bien contents de tout cela, avec tous leurs amis, parents et connaissances, vinssent faire chez lui comme un retour de noces, qui fut des plus beaux, honnêtes et divertissants comme jamais je n'en vis depuis. « L'histoire est donc vraie de tout point ?» demanda Sylvine Courtiot. « Si elle ne l'est pas, elle le pourrait être, » répondit le chanvreur. « Et si vous ne me croyez, allez y voir. »